Donc, si tu collabores avec une personne, tu travailles avec une personne, faut toujours être conscient de ta place. Tu vas garder. Si le jour tu l'oublies, parce qu'on ne va rien te dire, tu seras surpris de la suite. Troisième chose, pour garder, troisième principe, il ne faut pas se relâcher. Il ne faut pas abandonner, il faut persévérer dans le travail. Tout travail, à un moment donné, produit une certaine fatigue, une certaine lassitude, hein, ou une certaine crainte. Voilà ce que la Bible dit. Proverbes chapitre 18. Bon, je dis excusez, vraiment, on n'a pas la projection à l'écran. Donc, notez les versets ou lisez-les avec moi. Proverbes chapitre 18 au verset 19. Ceux qui ont leur Bible, tout le monde a sa Bible. Lève la Bible. Ceux qui ont des Bibles électroniques, vous pouvez soulever les... On sait maintenant qu'il y a des Bibles électroniques. Maintenant, on sait ça. Amen. Moi aussi, je peux soulever mon truc aussi. Voilà. On est tous dedans. Amen. Mais quand même, j'aime la Bible comme ça. Si tu ne touches pas le papier, bon, ça c'est le conservatisme. Bientôt nos enfants, ils n'auront plus ça. Proverbe 18, 9. On le lit ensemble. 1, 2 et 3. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. La Bible dit que tu peux travailler, mais si tu te relâches dans ton travail, tu es le frère de celui qui détruit. C'est-à-dire celui qui n'a même pas travaillé, qui casse tout là, qui gâte même. Il a pour frère celui qui commence une œuvre, mais qui ne l'achève pas. Celui à qui Dieu confie une mission va travailler dans tel endroit. Il commence et il ne va pas jusqu'au bout. Lui et puis le destructeur sont deux amis. Ils ne sont pas amis, ils sont même frères. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. La Bible aussi appelle les personnes qui se relâchent dans leurs activités, la Bible aussi les appelle des paresseux. Amen. En introduction à ce message, j'ai souvent parlé des paresseux. Donc vous pouvez prendre ça dans les premiers messages. Proverbes chapitre 19 verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la ramène pas à sa bouche. Ça, c'est un frère qui se relâche dans son travail. C'est qui le paresseux? Le paresseux, ce n'est pas celui qui n'entreprend pas. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, il met la main dans le plat, mais fait l'effort pour l'amener à la bouche, là. Il ne peut pas. Cette vision explique quoi? Que dans toute activité professionnelle, vous avez deux grandes étapes. Vous avez l'étape où vous avez la joie d'aller au travail. Parce que lorsqu'on descend la main pour aller dans le plat, c'est facile. Ouais, tu vois le plat là. La pesanteur fait que ton bras même est attiré vers le bas. Est-ce qu'on ne souffre pas? Mais les muscles vont se mettre en travail pour que la nourriture rentre effectivement dans ta bouche. Donc le travail, c'est quand on ramène la cuillère ou la main vers la bouche. C'est une image pour dire que les paresseux là, lorsque le travail est beau au début, on est enthousiaste, ils sont motivés. Mais la partie difficile, qui consiste à fournir des efforts pour jouir du fruit de leurs travaux, ces gens-là n'y vont pas. Ils commencent une œuvre parce que survient une difficulté, ils disent sûrement que Dieu n'est pas là-dedans. Si Dieu était là-dedans, ma mère, de la même manière que ma mère est descendue là, ma mère doit amener le plat de ma bouche. Tout travail signifie effort. Dieu a tellement travaillé qu'il s'est reposé, mes amis. Donc, il y a de l'effort à fournir. Vous ne pouvez pas croire que tout, comme on dit, j'ai expliqué, il faut porter le fardeau de Dieu, c'est-à-dire que tu travailles sur un lit douillet. Alléluia. Et là, la nourriture vient dans ta bouche. Oh, je fais le travail de Dieu. Tu arrives à ton boulot, tout est doux. À tout moment, à un moment donné, toute activité que tu mènes va te demander de fournir des efforts supplémentaires, où tu vas sentir ton cerveau commencer à tourner, où tu vas essayer de résoudre des problèmes. Et tu veux résoudre ces problèmes-là, ça t'empêche même quelquefois de vite te coucher, où tu fournis des efforts. C'est en ce moment-là que tu es dans l'étape où tu dois ramener maintenant le fruit que Dieu t'a montré à la bouche. Le paresseux, c'est celui qui commence une œuvre et qui ne l'achève jamais. Il est le frère de celui qui détruit. Dieu a des grands projets avec toi, mais tu commences, tu ne vas pas. À peine, on vient, on dit non. Les époux sont venus, on dit on va fermer ta boîte. On a fermé. Mais Dieu t'a dit que tu allais faire un commerce. Le commerce allait marcher. Tu as fait le commerce parce que ça a fermé, tu arrêtes. Est-ce que Dieu t'a dit forcément que c'est la boîte que tu viens d'ouvrir là qui va te nourrir? Ça peut être la seconde. Vous savez, écoutez-moi, la réussite, notez ceci, la réussite est un cumulé d'échecs et de succès. On ne réussit pas sans échouer. Est-ce qu'on est ensemble? Ça dit, Dieu, pour te faire réussir, là, il va te faire connaître des revers. Il va permettre que tu connaisses des revers pour te cultiver, pour t'apprendre. Il doit y avoir des difficultés, sinon on ne fournit pas d'efforts. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Proverbe 20, verset 4. Proverbe 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. La Bible dit que il y a quelqu'un qui ne travaille pas parce qu'il fait froid. Dis-moi, il fait froid. On dit à cause du froid. Mes amis, en hiver, quand même. Bon, il y a beaucoup qui ne connaissent pas l'hiver. Bon, nous, l'armatin, ici, on peut aller au champ. Amen. Mais un froid sérieux. La Bible dit à cause du froid. La raison peut paraître valable. Mais Dieu dit non. Et c'est quoi le froid? Le froid, c'est l'atmosphère qui est glaciale. Certains relâchent leurs activités professionnelles parce que quand ils arrivent au boulot, l'atmosphère est glaciale. Le patron est froid. Au début, quand tu arrivais à l'église, tout le monde était jovial. Alléluia, alléluia. À un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tout le monde devient froid, on ne te salue pas. Il y a l'hiver dans le domaine professionnel. La Bible dit, le paresseux, c'est celui, lorsqu'il sent qu'une atmosphère devient glaciale, que les gens s'étendent dans la structure, on se dispute. Il faut savoir que c'est un peu comme ce qu'on fait à l'église. Lorsqu'on lance par exemple les tribus, c'est une très bonne idée. Au début, tout le monde est enthousiaste. Ça, c'est la main qui descend dans le plat. Mais à un moment donné, ça devient lourd. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où on doit commencer à moissonner le fruit du travail qu'on est censé faire dans les tribus. Lorsqu'on parle des familles d'honneur, au début, tout le monde est enthousiaste. Allez, famille d'honneur. Alors, on va se retrouver. On est ensemble, on prie. Ça, c'est doux. Quand on te dit rentre dans un département au début, c'est intéressant. Voir de nouveaux amis, rire avec les gens, tout ça, c'est bien. Mais il y a le moment du froid. Toute entreprise passe par un froid. Toute église doit passer par un moment où tout est gelé. Toute relation avec les autres sur le plan professionnel, à un moment donné, la joie que tu avais au départ de l'activité devient bizarre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Ceux qui arrêtent quand ils voient le froid, la Bible les appelle des paresseux. Ils sont les frères de ceux qui détruisent. Jésus a commencé au départ, tout le monde était content. À un moment donné, on va le tuer. Mais il allait jusqu'au bout de sa mission. Amen. Même son disciple l'a vendu. Au début, tous les Judas étaient derrière lui. Jésus, Jésus. Judas dit, je vais te vendre. Amen, amen. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc, pour garder, il faut être déterminé. Il faut savoir que Dieu t'a dit quelque chose. Et tu vas jusqu'au bout. Quand ça devient froid, il faut savoir que tu ne dois pas t'arrêter à cause du froid. Tu dois t'arrêter parce que Dieu te donne un signe. Tant que Dieu ne t'a pas parlé. S'il veut, il n'a qu'à neiger. Le temps n'a qu'à devenir glacé. Mais toi, tu es là-dedans. Tu dis, Seigneur, tu m'as dit d'être ici. Pourquoi je vais partir? Jusqu'à ce que j'ai vu clair dans cette affaire. Jusqu'à ce que tu entends une voix pour te dire, non, c'était juste pour que tu expérimentes le froid. Maintenant, il faut partir. Tant que Dieu ne t'a rien dit, vas-y. Amen, amen. Ah. Proverbe 22, 13. Le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Proverbe 22, verset 13. Faut pas te relâcher devant la peur et l'intimidation. C'est qui le lion? Le lion, il intimide. Le lion, il rugit. Des patrons bizarres. Le lion, il aime crier sur les gens. Des gens qui crient sur toi. Tu n'as rien fait. On te donne des paroles blessantes quand tu vas dans la structure. Là, ce n'est pas le froid. Le froid, la personne ne te parle. Mais le lion, c'est quand les gens te crient là-dessus sans que tu comprennes. Tu n'as même pas fait d'erreur. On t'envoie balader. Le patron te méprise. La Bible dit, celui qui arrête de travailler, quand il rencontre le lion, c'est un paresseux. Il est le frère de celui qui se relâche, de celui qui détruit. Ce n'est pas parce qu'on est en train de crier sur toi. C'est parce que peut-être le diable ou un démon est parti déranger ton patron pour te fatiguer que tu vas arrêter le travail. Persévère. Dis à un voisin, persévère. Il dit, je ne supporte pas qu'on crie sur moi. Quand tu veux travailler, arrête d'être distrait. Tu vas subir des injustices. Le patron va prendre une décision qui n'est même pas juste même. Mais tout ça, ça fait partie de garder. Il faut garder. Dis à un voisin, garde. Quatrième chose qu'il faut avoir pour garder. On va finir bientôt. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez ou où vous allez. Amen. Dieu dit ceci à David, 2 Samuel chapitre 7, verset 7. Donc, quatrième chose, pour garder le travail, pour garder l'activité, n'oublie jamais d'où tu viens et où tu vas. 2 Samuel 7, 7. À partir du verset 7. Bon, verset 8, il dit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris du pâturage derrière les brebis pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. Verset 9, j'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Amen. Et ainsi de suite. Dieu dit ceci à David, il faut te souvenir d'une chose, je t'ai pris derrière les moutons pour que tu sois roi. Quelquefois quand vous travaillez et puis tout commence à réussir, vous avez bien cultivé, vous oubliez qu'avant d'être chef de service là, vous n'avez même pas un boulot, c'est votre premier travail. Mais quelquefois l'orgueil te prend, tu as l'impression que non, tu ne sais pas d'où tu viens quoi. Quand ça commence, quand les choses commencent à tourner, tu oublies que juste avant tu étais dans la galère. Et quand vous commencez à oublier, votre cœur commence à s'enfler. Il y a des choses que tu ne faisais pas. C'est cette entreprise-là qui a commencé à t'épanouir, à te donner de parler à des gens, à rencontrer certaines personnes, à voyager, à faire de certaines choses. Souviens-toi d'où tu viens. Si tu oublies ta source, tu vas commencer à dire des choses et à perdre l'esprit avec lequel Dieu veut que tu travailles. Jésus a dit, mon témoignage est vrai dans le livre de Jean, parce que je sais d'où je viens et je sais où je vais. N'oubliez jamais d'où vous venez. Le jour où tu oublies d'où tu viens, tu vas perdre ta destination. Et n'oublie jamais ce que Dieu t'a dit quand tu commençais le travail. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce passage, Jean 8, 14. Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens et je sais où je vais. Cinquième chose. Cinquième clé pour garder. L'humilité et la fidélité. Dis avec moi l'humilité. La fidélité, j'en ai plus ou moins parlé. Quand vous êtes fidèle à l'esprit de l'entreprise, quand vous êtes fidèle, vous travaillez dans l'esprit du patron. C'est ce que la fidélité, c'est en cela que vous gardez. Amen. L'humilité, la Bible dit ceci, c'est le manque d'humilité, c'est l'orgueil qui a fait que Satan a perdu son poste. Ézéchiel 28, verset 14. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Là, il est question du diable, Lucifer. Verset 16. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane. Et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu. Ô chérubin qui couvrait, ton cœur s'est élevé pour ta beauté et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre et je t'ai mis devant les rois afin qu'ils te voient. Amen. Satan s'appelait Lucifer, il était glorieux. L'orgueil est monté dans son cœur. La Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Pour garder ce que tu entreprends, sois toujours humble. L'humilité, c'est la simplicité. Mais l'humilité, c'est la capacité à écouter les autres. L'humilité, c'est la capacité à toujours apprendre. Celui qui est humble est toujours à l'école. Celui qui, l'orgueil, quand vous commencez à sentir que vous n'avez plus besoin d'apprendre, quand on vous parle d'une formation, vous dites, oh, je connais, vous êtes orgueilleux. Quand on vous dit, va te former, non, ça, je maîtrise, on ne maîtrise jamais rien. J'étais surpris la dernière fois, j'ai le pasteur, il vend au téléphone, il dit, oh, j'ai appelé un coach pour la gestion du temps pour venir nous donner une formation à l'église. Je dis, ah. Or, lui-même, le pasteur Evan, il est. Sa formation, même, c'est coach. Donc, j'étais surpris. Et il m'a dit, non, il faut. Il dit, je dois me mettre à jour, je dois encore apprendre certaines choses. Et j'ai observé tous les grands chefs d'entreprise qui demeurent à la tête. Lisez les histoires de Bill Gates, lisez leurs. Eux tous sont humbles. Ils sont humbles. Et vous les voyez au sommet, ils ne sont pas orgueilleux. Hein. Ce sont des gens humbles. Ce n'est pas parce qu'ils sont inatteignables, c'est-à-dire c'est difficile de les saluer, qu'ils sont orgueilleux. Hein. Parce que c'est une affaire de gestion de temps. On ne peut pas saluer tout le monde. Donc, s'il veut passer, il dit bonjour, bonjour. C'est pour ça que tu ne peux pas. Mais l'humilité. Eux tous là, ils apprennent de leurs amis. Eux tous sont de grands lecteurs. J'ai vu un homme comme le pasteur Mathieu Hachimono. Quand il te dit le nombre de livres, il lit près de 60 livres. C'est pas peut-être 20 livres par mois. Mais il lit de qui? Il apprend chez qui? Il lit. Tu lui donnes des livres, il lit. Les gens lisent, tu apprends. Ça, c'est l'humilité. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux, la pauvreté en esprit, c'est l'humilité. C'est-à-dire, c'est le fait de dire, je n'ai jamais suffisamment. Dieu, je vais apprendre encore. Parce que le pauvre est celui qui demande, qui cherche à nouveau pour combler sa faim. La Bible dit, en esprit, il faut être pauvre. Quel que soit ce que tu sais, le jour que tu penses que tu connais tout, c'est le jour où tu vas chuter. Pour garder le travail, il faut être humble. Dis avec moi, sois humble. Amen, amen. Amen.